Et c'est grâce à vous, Boom. Bonjour, Boom.
Bonjour.
BDiste, donc, qui nous offre La Méduse, un roman graphique ou une BD. Comment vous décrivez votre
Oh là
ouvrage?
là, c'est comme une controverse. Non, c'est les deux. Selon moi, tous les
Oui.
romans graphiques sont de la bande dessinée. Toutes les bandes dessinées ne sont peut-être pas des romans graphiques. Je pense que le terme roman graphique désigne une BD un peu plus étoffée, plus de pages, généralement en noir et blanc. C'est un terme qui vient des États-Unis, là. Ils voulaient différencier la BD plus indépendante des comics américains de super-héros, comme Spider-Man n'est pas un roman graphique, j'imagine.
Alors, plus de 200 pages,
Oui.
c'est du noir et blanc, ça correspond peut-être à la
Oui.
définition.
Je suis
Mais
confortable avec ce
oui,
terme-là, moi.
mais moi je dis BD aussi parce que BD, ça on n'a pas de honte
Non.
à avoir de ce mot. Et surtout pour ce qui concerne votre ouvrage que j'ai lu avec beaucoup d'émotion, c'est quelque chose de très brillant et d'émouvant également.
Merci.
Et c'est pas votre première,
Non, ma
Boom.
première BD, non, j'ai perdu le compte. Je pense que c'est peut-être ma 15e. Ça fait 11 ans, presque 12, que je fais de la bande dessinée professionnellement. J'ai beaucoup fait d'auto-édition au début, mais j'ai un livre, mon premier livre publié professionnellement, c'était en 2012. Fait que ça fait quand même un petit
Oui,
bout.
une douzaine d'années. Et avant ça, vous avez touché pas mal au cinéma d'animation.
Oui, j'ai fait des études, d'ailleurs, au Cégep et à l'université en animation, puis j'ai fait des courts-métrages. J'ai travaillé après à l'ONF, j'ai travaillé un petit peu en publicité, puis j'ai arrêté en 2012 quand je tombais enceinte
OK, c'est un
parce
bébé qui
que,
vous a fait changer de carrière.
ben, j'aimais beaucoup la BD. J'ai toujours pensé que je ferais de la BD à un moment donné, mais dans le fond, je me suis rendu compte au fil du temps que ce que j'aimais, c'était raconter des histoires. Donc, le médium importait moyennement, là. J'aime dessiner, j'aime raconter des histoires, donc l'animation, ça me plaisait bien. Je faisais de l'animation à la pige, puis quand je suis tombée enceinte, c'était plus difficile de
Ouais.
faire entrer des contrats à la pige en animation. C'est toujours urgent, les contrats d'animation.
Faut
Peux,
que ça se soit
peux-tu
livré avant hier,
m'animer?
là. Ouais.
C'est ça. Fait que là, ben, pendant mon congé, entre guillemets, de maternité, parce
Ouais.
que c'est pas un congé, j'ai continué de faire de la bande dessinée, puis j'ai émergé de mon congé avec une carrière en BD. Puis je me suis rendu compte que l'animation, ben, ça me manquait pas tellement.
Alors,
Vu que là, je faisais de la bande dessinée. Donc là, j'ai pas fait d'animation depuis 2012.
Ouais, puis ça vous
Peut-être un
manque pas.
jour.
Peut-être un jour, vous dites pas non, il n'y a pas de
Non.
quoi faire là-dessus, là.
Non, mais là, j'ai la BD qui me tient bien occupée.
Oui, vraiment. Et on en parle avec beaucoup de bien de La Méduse. Comment vous présentez cette BD? Qu'est-ce que vous aviez envie de raconter à travers ce roman
Ben,
graphique?
ça vient surtout de ma vie. C'est inspiré de ma vie. Moi, j'ai eu des maladies oculaires depuis une quinzaine, 16 ans peut-être. Je dis une quinzaine d'années, mais je pense que ça fait 2 ans que je dis ça. Je ne sais pas exactement quand ça a commencé. Bref, mais j'ai eu des problèmes dans les yeux. Je voyais des taches au début, des flottants, comme beaucoup de gens. Ça, c'est
Ah.
assez fréquent. Moi, j'en avais une quantité astronomique. Je ne savais pas trop pourquoi j'avais ça, mais ça se déplaçait comme une espèce de blob dans mon œil. J'avais une tache translucide, mais permanente, qui bougeait à l'intérieur de mon œil. Puis ça se comportait un peu comme une méduse. C'est moi qui ai baptisé ça ma méduse. J'avais pas vraiment de réponse à mes questions. Les ophtalmologistes, ils me disaient que j'avais probablement eu une inflammation qui avait laissé des cicatrices. C'est pour ça que j'avais ça dans l'œil. Donc, j'ai commencé à me. T'sais, je me disais, c'est quand même poétique, dit comme ça, que j'ai une méduse dans l'œil. Donc, je me suis dit, je devrais faire une histoire avec un personnage qui a une méduse dans l'œil. Puis, j'ai fait ça d'ailleurs il y a longtemps. J'avais d'abord envoyé un pitch à un concours à l'ONF, justement, Cinéaste Recherché. J'avais été finaliste pour un court-métrage de 4-5 minutes. Là, je parle d'une version très, très abrégée du livre que vous venez de lire, qui s'appelait La Méduse. Donc, j'ai été finaliste, j'ai pas gagné, donc j'ai jamais fait le film en question.
Ça pourrait être aussi un bon film.
Je sais pas, parce que là, le contenu a quand même changé. À l'époque, elle avait une seule méduse dans l'œil, tandis que là, le personnage de ma bande dessinée, elle en a une au départ, mais
Ça se multiplie.
ça se multiplie, la
Ouais.
maladie dégénère. Ça pourrait probablement faire un film intéressant, mais ça serait extrêmement dérangeant. Ça, tu sais, là, la BD, au moins, c'est statique.
Ouais.
On a, tu sais, X nombre de méduses, puis on peut prendre le temps. On s'attarde à l'image parce que le plus, pour ceux qui nous écoutent, évidemment, qui ne l'ont pas devant les yeux, la méduse, comme elle se multiplie, il y en a de plus en plus dans la page, donc la BD devient plus difficile à lire. Je pense qu'au cinéma, ça serait peut-être plus difficile de faire cet effet-là sans donner mal au cœur.
Malgré que la BD donne pas nécessairement mal au cœur, là, quand on arrive justement à cette multitude de méduses, mais ça crée un sentiment. On est capable de se mettre à la place du personnage principal, d'Odette, là, qui vit ça. Ça crée de l'anxiété.
Ça, c'était mon but.
Ouais.
Au moins, ça a marché.
Ah oui, oui, ça, ça marche. Ça marche tout plein. Alors, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire d'Odette, donc,
qui vit avec
ce problème à l'œil qui devient de plus en plus envahissant.
Oui,
comme
ben,
sa mère.
C'est une... sa mère, elle n'en a pas de méduse.
Non. Mais sa mère est
un peu envahissante.
Ouais.
Oui, ben c'est Odette qui a la jeune vingtaine, qui est en quête, elle a soif d'autonomie et d'indépendance, là, surtout à cause de sa mère qui est un peu parent hélicoptère. Son père a l'air plutôt absent.
Mm-hmm.
Sa mère, par contre, est assez intense.
Donc, mais Odette, on l'aime quand même,
oui,
parce
ben,
qu'elle fait pas ça pour mal
elle
faire.
A beaucoup d'amour, non, c'est ouais. Ça, sa mère a beaucoup d'amour à donner.
À part avec le lavage d'Odette, même si Odette, il n'a rien demandé.
Elle amène de la nourriture, elle lui demande, tu manges à ta faim, ce genre d'affaires-là.
Oui, oui, oui.
Fait qu'Odette, donc, elle a son appart, elle a un job, un libraire, elle est insatisfaite de ça. Elle rencontre quelqu'un à la librairie qui lui plaît bien. Mais en arrière de tout ça, c'est ça, elle a un diagnostic, elle a une méduse dans l'œil. Puis au départ, ça commence que, bon, c'est fatigant, mais c'est pas bien grave.
Mm-hmm.
Surveiller les changements et tout ça. Mais bon, au fil du livre, ça empire. Puis là, la petite vie de jeune adulte d'Odette devient bien compliquée parce que là, il faut qu'elle jongle avec sa maladie. Puis en même temps, elle a une certaine honte par rapport à ça. Elle a
pourquoi
des réserves. Mais elle a peur, en fait, de perdre ses amis, de perdre sa nouvelle flamme. Elle a peur de perdre son autonomie. Elle a peur de devenir, de faire pitié un peu, de devenir...
Alors, elle va dire non à certaines choses, là.
Elle dit non à certaines choses, puis elle le dit pas. Elle dit pas, elle en parle pas à ses parents. Elle en parle à presque personne. Il y a juste un de ses amis, son meilleur ami, qui est au courant, mais elle dit même pas à sa nouvelle amoureuse.
Non.
Parce que c'est trop récent, puis qu'elle a peur, justement, que tout ça s'écroule.
De perdre son histoire naissante, son histoire amoureuse naissante.
Oui.
Puis l'ami aussi cache des choses, puis à un moment donné, il va avoir des confidences de part et d'autre.
Oui.
Alors, l'amitié est très importante au cœur de ce livre-là?
Ben, quand on souffre, les amis, quand ça ne peut pas être la famille parce que ça marche moyennement bien, au moins c'est la famille qu'on choisit peut-être. Quand on est entouré, c'est comment je pourrais dire ça? Ça nous aide vraiment beaucoup à passer à travers.
Oui.
Parce qu'être
tout
seul...
Je pense que c'est la clé, hein? D'être
ben,
accompagné,
oui.
D'être...
Oui, puis d'avoir quelqu'un à qui parler, d'avoir quelqu'un qui est juste là pour nous écouter. C'est mm-hmm. pas besoin d'avoir un échange, mais juste au moins d'avoir une oreille.
Une présence. Une écoute, oui.
Oui, puis de l'aide si on en a besoin, si on en veut, évidemment.
Comme l'ami Léon fait.
Oui, ouais. Lui, c'est à ça qu'il sert. Là,
on s'attache à lui.
Oui, c'est mon petit charmant qui est là, c'est le support moral.
Et les gens se demandent probablement pourquoi vous vous appelez Boom. J'imagine que c'est pas votre vrai nom.
Non, j'ai un long nom. Un long nom de famille, un peu difficile à prononcer des fois.
Comme le personnage principal de la BD, Odette Bizayou.
Oui, donc elle a un parent chinois. Son père est chinois. Mon pseudonyme, Boom, c'est quelque chose que je traîne avec moi depuis longtemps déjà. J'avais 2 ans. Moi, je m'appelle Samantha. Voilà.
J'aime ça, Samantha aussi.
Donc, quand j'avais 2 ans, des membres de ma famille m'appelaient affectueusement Sam Boom. Oui, donc c'était tout. J'étais petite, là. J'avais déjà ce surnom-là. Et quand est venu le temps de m'inscrire à des forums sur Internet, là, au début des années 2000, dans ce temps-là, il ne fallait pas, quand on était mineur, donner notre vrai nom sur Internet. C'était pas recommandé, là. Peut-être que ça devrait encore être comme ça, mais bon. Donc, je m'étais dit, ben là, Sam Boom, ça contient quand même une partie de mon vrai nom. Je veux juste couper ça complètement puis utiliser Boom. Je lisais aussi beaucoup de BD franco-belges où le pseudonyme était monnaie courante. Puis je me disais quand j'étais petite, un jour j'aurai un pseudonyme. Fait que j'ai gardé ça. Je l'aimais bien, je l'aime encore. Là. C'est court, c'est facile à retenir.
Ah oui.
C'est une onomatopée, donc on dirait que c'est cohérent avec la bande dessinée. Il y a certaines personnes qui l'écrivent constamment en majuscule, mais on n'a pas besoin de crier mon nom. Ça peut juste être comme un prénom normal, B-O-U-M.
B majuscule, mais le reste en minuscule.
B-O-U-M, oui. Alors, c'est ça, la petite
histoire. Merci pour cette confidence. J'imagine que ce n'est pas la première fois que vous vous faites poser cette question-là. Donc, est-ce que vous diriez que la méduse est auto-fictionnelle?
Je ne sais pas si on peut aller jusque dans l'autofiction parce qu'il y a quand même beaucoup de libertés qui ont été prises, mais le côté maladie oculaire et perte de vision, ben c'est quand même assez proche de ma réalité. Et jusqu'au point où, moi, j'ai écrit le scénario de la BD en tant que tel. Je l'ai écrit en 2019. Puis, bon, évidemment, j'ai apporté des changements après ça. J'ai signé avec Papa et une semaine ou deux semaines après, j'ai perdu l'usage de mon œil droit complètement. J'ai fait une névrite optique, qui est une inflammation du nerf optique. Je suis devenue aveugle de cet œil-là, de mon œil droit. Donc, je suis allée à l'hôpital et tout ça. Puis bon, la névrite optique, normalement, ça se résorbe. Le nerf désenfle, la vision revient. Puis souvent aussi, la névrite, c'est pas, ça coupe pas complètement la vision. Mm-hmm. Il y a un point mort au milieu où on voit gris. Le reste, on peut voir. Moi, c'était comme si on avait débranché le câble HDMI de mon œil. Moi, je voyais plus rien. C'est revenu légèrement, mais vraiment pas. Je suis encore fonctionnellement aveugle de cet œil-là. J'ai été un cas très sévère. J'ai passé beaucoup de jours et beaucoup de semaines à l'hôpital, pas en étant hospitalisée, mais j'allais là le matin, puis je repartais à un moment donné. Quand les médecins m'avaient vu, j'ai mobilisé plein de départements. Ils ont essayé de sauver mon œil. Ça n'a pas marché, mais mon autre œil marche très bien. Donc, au moins, j'ai lui pour dessiner encore. Donc là, après ça, après mes aventures à l'hôpital, ben, je suis retournée dans mon scénario, j'ai changé plein d'affaires. Là, j'avais soudainement... c'est comme si j'avais fait de la recherche. C'est ça que je disais aux médecins, à l'urgence en ophtalmologie. Ils me disaient qu'est-ce que je faisais dans la vie. Puis je disais, justement, je travaille sur un livre en bande dessinée sur la perte de vision. En ce moment, je fais de la recherche. C'était mon moyen à moi de rester positive là-dedans. Ouais. Mais ça faisait tellement longtemps que j'avais des problèmes d'yeux, puis on m'avait déjà averti qu'il y avait des possibilités que j'aille soit un décollement de rétine ou quoi que ce soit. Donc, j'avais début vingtaine, puis déjà, des fois, je marchais dans la rue en cachant mon œil droit, en me disant un jour, je vais le perdre. Fait quand je me suis réveillée sans mon œil, c'était pas. J'ai pas pleuré, là. Je me suis dit, bon, une autre affaire. Puis là, ben, grâce à ça, en fait, là, on a pu trouver qu'est-ce qui causait tout ça. Donc là, c'est correct. C'est un soulagement, là. Ça fait une histoire à raconter, puis je vis très bien avec un soleil. Puis j'ai fait une BD grâce à ça.
Oui, c'est ça, parce que je me disais, ça ne doit pas être trop évident quand on a des problèmes d'yeux d'être BDiste, parce que vous travaillez beaucoup avec l'image.
Oui, bien, il y a quand même eu un certain temps d'adaptation. Là, quand j'ai perdu mon œil, ça affecte la perception de la profondeur, évidemment. Ce que je dis souvent, l'affaire la plus difficile à faire pour moi, c'est de remettre un bouchon sur un stylo. Je l'ai jamais du premier coup. La perception de la profondeur de loin, c'est correct, je peux conduire une auto, tu sais, j'ai pas de misère avec ça. Ouais, c'est ça. Si on ferme un œil, on a une bonne
j'essaie
idée.
J'essaie de me mettre à votre place. Là.
Mais donc dessiner sur papier, c'est encore un peu difficile pour moi. J'ai toujours l'impression, admettons que je vais mettre, surtout quand je travaille l'encre, que là je vais faire une ligne à un endroit, mais tout le temps admettons un millimètre trop à droite, c'est jamais exactement là où je veux déposer mon crayon.
Ça demande de la patience.
Oui, ben, il y a aussi que j'ai pallié à ça en travaillant numériquement. La Méduse est mon premier livre qui est 100% numérique. Okay. Je n'ai pas d'originaux. C'est plate un peu parce que c'est aussi ma plus belle. Je pense que dans l'évolution des choses, c'est normal que c'est-à-dire idéalement, je m'améliore là, de livre en livre. J'ai vraiment travaillé fort. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette bande dessinée-là. Je pense que ça paraît parce
ça
que
paraît.
J'ai mis beaucoup de cœur. Mais j'ai pas d'originaux. Mais en même temps, c'est justement les outils numériques qui ont fait que j'ai été capable de dessiner comme ça. Parce que sur papier, j'aurais pas pu faire autant de détails ou d'affaires comme ça. Peut-être qu'éventuellement, en travaillant plus rapidement et plus souvent sur papier, je vais m'y faire.
Avec un peu de pratique.
Oui, je vais sûrement m'adapter.
Alors, j'ai d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous resteriez avec nous quelques minutes encore?
Ben oui.
OK, alors une petite pause. Puis on va poursuivre notre conversation avec Boum, qui est la BDiste, illustratrice de La Méduse, qui est une BD ou un roman graphique qu'il faut absolument découvrir, publié aux éditions Pow Pow. Oui, et il y a Boum qui est là, la BDiste de La Méduse. On poursuit notre conversation avec Boum. Ben, j'étais curieuse de savoir, vous avez dit à l'auditoire que vous aviez pratiquement perdu l'usage de l'œil droit. Comment se porte l'œil gauche, votre œil gauche?
Mon œil gauche, c'est encore 20 sur 20, mais j'ai des flottants maintenant dedans qui sont arrivés pendant l'année. J'ai un suivi assez serré avec une ophtalmologiste, une neuro-ophtalmologiste puis une neurologue, là. Quand je débarque à l'hôpital, ils me reconnaissent, ils disent « Non, c'est Madame le riche, vite, est-ce qu'elle a encore son œil gauche? Donc, je suis entre de bonnes mains.
Oui, au moins.
Puis là, j'ai des traitements aussi qui pour arrêter, pour empêcher en fait que mon autre œil me lâche, entre autres.
Oui.
Fait que là, j'ai quand même des bonnes chances de garder mon œil jusqu'à la fin de ma vie, on espère.
On l'espère pour vous, ça. Évidemment. Oui. Et comment les éditions Pawpaw ont accueilli votre projet?
Ben, ils ont bien accueilli. Moi, je connaissais Luc Bossé, donc qui a parti les éditions Pawpaw. Dans le temps, je le côtoyais dans les festivals, dans les affaires comme ça. Fait que je le connaissais déjà. C'est moi qui l'ai approché. Je disais, hey, je pense que j'ai quelque chose pour toi. J'avais en fait créé la Méduse en me disant que ça fitterait, ça marcherait bien dans les éditions, dans la ligne éditoriale des éditions Pawpaw. Puis quand j'en avais parlé, puis là, il m'avait dit « Hey, ces temps-ci, j'ai tellement de projets, je ne peux pas te garantir si j'ai une place pour toi. » Parce que, tu sais, c'est quand même une petite maison d'édition, mais il y a beaucoup de BDistes qui se dirigent vers Pawpaw parce que c'est une bonne maison d'édition. Puis il m'avait dit « Prends-le pas mal. Si je te dis non, ça ne veut pas dire que c'est pas bon. » Fait que là, moi, j'y envoie ça, puis finalement, il me rappelle, il me dit « Mais on y va, OK. » Fait que je me suis qualifiée. Ça s'est très bien passé. Ils ont trouvé ça très émouvant. Dépendamment de où j'en étais dans le dessin, ils ont pleuré aussi. Régulièrement, en faisant le montage, ils me disaient « J'ai encore pleuré, ma petite maudite. »
Mais vous forcez pas l'émotion, par exemple?
C'était pas ça mon but. J'ai essayé de raconter quelque chose d'honnête, des peurs véritables. C'est un sentiment que je connais. Puis j'ai mis ça sur papier. Puis là, ben, évidemment que c'est pas mon histoire, donc j'ai pris certaines libertés. Mm-hmm. Mais je pense qu'à date, les gens réagissent plutôt bien. Ils trouvent
vraiment
que c'est très juste. Puis j'ai aussi, j'avais pas pensé à ça nécessairement parce que des fois, on est dans notre projet d'écriture, puis on a le nez dedans, puis on sait pas trop, tu sais, à l'extérieur, on n'a pas de recul, admettons. Mais j'ai eu quelques échos de gens qui disent que ça peut s'appliquer à la maladie en général, puis que c'est pas nécessairement, ça peut pas nécessairement être juste à propos de la vision et des yeux.
C'est vrai. Est-ce que vous attendiez à des retours aussi positifs?
Non. Je suis étonnée. Je reçois beaucoup, beaucoup d'amour. Des auteurs aussi, d'autres auteurs. On est allé au rendez-vous de la BD de Gatineau. Ça a été le premier événement où on a eu le livre. On était supposé l'avoir pour le Salon du livre de Montréal, mais là, pénurie de papier, pénurie de main-d'œuvre, on a raté le Salon du livre. On l'avait en main, mais il n'était pas en librairie, donc on ne pouvait pas le vendre au Salon du livre. Fait que je suis allée à Gatineau avec, puis ben, il y avait évidemment un paquet d'autres auteurs de bande dessinée qui étaient là, puis les invités d'honneur, et ils ont presque tous acheté des gens...
Agréable, ça!
Oui, c'est ça, des grands de la bande dessinée québécoise, là. Alors, ça m'avait fait un petit velours, puis là, après ça, ils sont presque tous arrivés dans mes messages. « Hey, je l'ai lu, c'est incroyable, j'ai pleuré. J'ai des croûtes à manger, des choses que j'aurais jamais cru. » L'auteur qui me dit « j'ai des croûtes à manger », je suis comme « voyons donc,
est-ce que vous leur avez répondu?
Mais oui, 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 ben oui. Ben là, évidemment. Je savais pas quoi dire, mais je suis très extrêmement honorée de recevoir tous ces bons commentaires.
Justement, qui sont vos idoles, vos mentors ou vos modèles en BD? Est-ce que vous en avez, premièrement?
Des idoles, c'est dur à dire parce que je suis pas sûre que j'idolâtre quiconque. Je suis évidemment influencée par un paquet d'affaires que je lis. Ces temps-ci, je consomme vraiment beaucoup et presque exclusivement de la BD québécoise, donc je lis beaucoup ce que mes pères font. Peut-être que c'est une question de temps parce que là, ben, moi, j'ai des enfants aussi. J'ai pas tout le temps que je voudrais pour m'adonner à la lecture, donc peut-être que je fais plus attention, je choisis plus méticuleusement qu'est-ce que je lis. Donc, je lis beaucoup de BD locales. J'aime beaucoup, beaucoup le travail de Sviane, Iris, beaucoup de femmes aussi, sans faire exprès, mais il y en a de plus en plus, puis c'est vraiment le fun. Donc, le travail de Sophie Bédard, Les petits garçons de Sophie Bédard, son dernier livre aux éditions... Ben, c'est pas son dernier livre, c'est pas vrai, parce qu'elle a fait un livre jeunesse. Le livre qu'elle a fait chez les éditions Pawpaw, c'est Les petits garçons. J'ai vraiment adoré ça. J'aime beaucoup, là, c'est un peu peut-être prêché pour ma paroisse, mais le travail de Cab, parce que Cab, ben, c'était mon ami qu'on était ados. Donc, on avait 14 et 15 ans, puis on dessinait ensemble.
Je connais pas Cab.
Cab, elle a fait, plus récemment, elle a fait la BD U-Town chez Nouvelle Adresse. Elle a fait, sinon, la série Hiver nucléaire chez Front Froid.
Oui, 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 des titres qui me disent quelque chose. Cab, vous l'écrivez comment?
C-A-B.
C-A-B.
Oui.
Fait Cab et Boom, peut-être que vous allez travailler ensemble Cab-Boom, un jour. Oui.
On n'a même pas fait exprès. Cab, elle s'appelle Caroline Bro. Fait que c'est C-A et Bro. Puis on n'avait pas pensé à notre affaire pantoute. Puis là, maintenant, on est beaucoup ensemble et on travaille beaucoup ensemble aussi.
Vous aimez ça travailler à deux? Parce que vous en avez fait quand même pas mal de collaborations.
Ben là, on a fait une seule BD ensemble.
Mais avec d'autres. BD.
La BD, les collaborations, j'en ai fait une seule avec Guylaine Gay, où j'étais l'illustratrice. Guylaine, c'était un amour. T'sais, j'ai eu du fun avec elle, mais j'avais tellement le syndrome de l'imposteur parce que je pense que je me considère plus comme une autrice qu'une illustratrice.
Ah oui?
Surtout en bande dessinée, parce que c'est difficile de faire la bande dessinée. Fait que je pense que si j'avais à collaborer avec quelqu'un dans le futur, peut-être que j'aimerais mieux être du côté du scénario ou du dessin à quatre mains, un peu comme ce que Loisel et Trip ont fait pour Magasin Général.
Oui, c'est
vrai. Ou Iris et Sviane avec le Stitcha, où est-ce qu'elle y alternait.
Oui.
Tu sais, 6 pages par Sviane, 6 pages par Iris, tandis que Magasin Général, c'est carrément un dessin mélangé. C'est Loisel, je pense, qui faisait le crayonné, puis Trip redessinait par-dessus, puis il faisait l'ancrage et le propre. Ça donne une espèce de mélange de style. Fait que ça m'intéresserait, mais d'illustrer le scénario de quelqu'un d'autre, je sais pas si je... Je sais pas. Je pense que j'ai le syndrome de l'imposteur.
Mais vous devriez pas. Quand on, quand on regarde vos dessins, vos illustrations dans La Méduse, on se dit pas « Oh, le dessin est plus faible que les mots, que le conte, que le propos. » Pas du tout, pas du tout.
Je suis flattée.
Mais je dis pas ça pour vous flatter, mais je dis ça parce que je suis sincère. Vous les illustrez aussi Montréal. Je pensais à Rabagliati qui aime bien ses BD, ses histoires. Ça passe à Montréal. Et puis, vous aussi, votre histoire se passe à Montréal.
Oui, ça se passe dans Hochelaga Maisonneuve. J'ai en fait campé Odette dans mon premier appartement. Que là, je n'avais pas accès à cet appart-là, j'habite plus là.
Fait que on va au cinéma Quartier Latin aussi.
Oui, elle va au cinéma Quartier Latin, elle va au biérologue, au marché Maisonneuve. Ça, c'est le biérologue, c'est à côté du marché Maisonneuve.
À l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.
Elle va à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Mon ophtalmologiste m'a permis de prendre des photos. Fait que j'avais des références. Puis là, il y avait les autres employés de l'hôpital qui me regardaient comme si j'étais une espèce d'espionne. Puis ça demandait bien qu'est-ce que je faisais. Puis là, le médecin arrivait, a dit « Non, c'est correct, c'est l'affaire. »
Donc, vous travaillez à partir de photos?
À partir de photos, à partir de modèles 3D. Dans BD, il y a beaucoup de gens qui font ça parce que si on peut tourner des coins ronds en bande dessinée des fois, fait qu'on a une espèce de modèle 3D de l'appartement, admettons. Puis là, on peut avoir ça comme référence au moins. Puis là, après, on dessine... C'est-à-dire qu'il y a vraiment plus de détails dans mon dessin que dans le modèle en question que j'ai utilisé.
Mm-hmm.
Mais ça aide à aller un peu plus vite. Puis on n'est pas obligé tout le temps de tirer les points de fuite. Fait que c'est mon outil. J'ai travaillé avec ça. C'est la première fois que j'utilise ça autant dans une bande dessinée. Puis je pense que ça m'a beaucoup aidé. Voilà.
Et au début de l'entrevue, juste avant, on écoutait Janelle Monáe. La musique est importante dans votre vie. Et est-ce qu'habituellement, il y a toujours des chansons dans vos œuvres?
C'est drôle
ça
parce
se présente, il y en a.
J'ai fait beaucoup d'autobio où la musique était moins importante. Là, il y en avait quand il y en avait, mais c'était des anecdotes véritables. Fait que s'il n'y avait pas de musique, j'en mettais pas. Mais j'ai fait un autre livre qui est peut-être plus dans le même esprit. Qui s'appelle La Petite Révolution. Puis là-dedans, je parle de Boris Vian et de la chanson Le Déserteur. Donc oui, je pense que la musique était plus importante dans la Petite Révolution vu que ça parlait carrément de Boris Vian.
Mm-hmm.
Mais dans La Méduse, je pense que j'avais un désir de camper ça dans le réel, que les gens... C'est comme si mes personnages existaient réellement. Ils habitent dans la Maisonneuve, ils vont dans des endroits qui existent. Ils vont dans des endroits qui n'existent pas non plus. La librairie où Odette travaille... Je l'ai inventé parce que je voulais faire ce que je pouvais faire ce que je voulais avec, puis avec les employés et tout ça. Fait que ça, je l'ai inventé, mais le reste des places, comme l'appartement d'Odette, existe réellement. Puis c'est ça, le marché Maisonneuve et tout. Fait que la musique aussi, je voulais donner une personnalité plus palpable, j'imagine. Mais pour la musique, je vais quand même donner du crédit. Moi, j'écoute beaucoup de musique plus mélancolique, plus triste, surtout que là, j'écrivais une histoire un peu triste. Donc, j'ai demandé à Cab, justement, tu peux-tu me donner... Elle s'entraîne avec la musique, puis elle fait des playlists, là, des listes de lecture là, très pointues, très pointilleuses. J'avais dit, peux-tu me l'envoyer? Donc, il y a beaucoup des chansons. Il y en a que c'est-à-dire, elle m'a envoyé sa liste de lecture, c'est moi qui ai choisi dedans. Ah oui, ça va jouer. Ça, ah oui, ça, elle aimerait ça.
Il y a du Prince.
J'y avais dit, qu'est-ce qui jouerait dans un bar? Là? Aide-moi,
oui,
là.
C'est ça.
J'avais dit, mets du Prince. Tu veux que les gens dansent, mets du Prince. Mets du Janelle Monáe. Puis après
Rapture,
ça,
The Rapture.
Ouais, ça c'est quand elle s'entraîne.
Mm-hmm.
Ça c'est bref, c'est la liste de lecture d'entraînement de Cab.
Ben j'aimerais
on la remercie.
Oui, merci Cab. Et j'aimerais aussi saluer le lapin Napoléon.
Oui.
Ouais. On dira pas tout parce que.
Donc Odette vit avec un lapin domestique. Moi j'ai eu deux lapins domestiques.
Ah oui.
dont une que je voulais, c'était une femelle, je voulais l'appeler Napoléon, mais j'habitais encore avec ma famille dans ce temps-là. J'avais, je pense, 18 ans. 17 ans, 18 ans.
Ouais. Et vous aviez un...
Puis on avait eu un lapin, puis moi je voulais l'appeler Napoléon, mais là il me disait « Oh non, non, c'est une femelle », fait qu'elle s'est pas appelée comme ça finalement, mais je l'ai récupérée. Mais, fait cocasse, ma fille de 6 ans a un toutou lapin que j'avais acheté même avant d'avoir des enfants, juste parce que je le trouvais beau. Puis lui, je l'avais appelé Napoléon, juste pour rigoler, ça va être mon lapin Napoléon. Mais elle, elle l'utilise, ce nom-là, fait que son lapin s'appelle Napoléon. Fait que là, quand j'avais même pas fait exprès, j'ai appelé mon lapin dans le livre Napoléon pour faire honneur à mon ancien, à ma lapine. Puis après ça, je me suis rendu compte que ma fille avait un toutou lapin qui s'appelait Napoléon. Fait que j'ai l'air d'être bien stiqué sur Napoléon. Mais bref, c'est mignon. Elle a trouvé ça le fun, en tout
cas. Bien, c'est sûr que c'est mignon. Et les projets pour vous, Boom, quels sont-ils? Est-ce que vous pensez déjà à une prochaine BD, une suite peut-être à la Méduse?
Une suite, non. Je pense que
ça s'attache
assez...
au personnage, on aimerait les retrouver.
Mais je pense que quand on travaille des suites, il faut penser à une suite avant, en travaillant le projet. Mm-hmm. Moi, je trouve que là, ça t'sais, l'histoire est close. Je pense que le reste, on peut se l'imaginer. J'ai rien dans l'immédiat. Là, je me suis reposée un peu. J'ai travaillé beaucoup sur la Méduse. J'ai pas vraiment eu d'été. J'ai fait beaucoup, beaucoup de temps, entre guillemets, supplémentaire. J'ai travaillé beaucoup le soir aussi tard pour finir à temps pour le Salon du livre. Puis on l'a pas eu, mais c'était hors de notre contrôle.
Vous vous prendrez l'année prochaine.
Oui. Ouais. Mais là, j'ai des bribes d'idées. J'aimerais peut-être aller un peu vers le jeunesse. Je pense qu'après avoir fait un projet aussi gros et un peu lourd, j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus léger, d'un peu plus rigolo. Fait que j'aimerais peut-être faire un album jeunesse, ou peut-être faire de la BD jeunesse. Là, en ce moment, je me repose. Je fais du ménage dans mes idées, mais je commencerai ça plus sérieusement en 2023.
Quand vous parlez de livres jeunesse, est-ce que vous diriez que la Méduse ne s'adresse pas aux jeunes?
Il n'y a pas de... C'est pas proscrit. Il y a des gens qui me l'ont demandé, est-ce que mon enfant peut lire ça? La réponse, c'est oui. Ils vont peut-être trouver ça plate. Il n'y a pas tant d'action. Il y a un petit peu de nudité, mais tu sais, moi, j'ai aucun problème. Mes deux enfants l'ont lu, l'ont regardé.
Quel âge déjà, on vous en...
Ils ont 9 ans et 6 ans. Fait que ma fille de 9 ans l'a lu, ma fille de 6 ans a regardé les images parce qu'elle n'est pas tout à fait rendue là dans la lecture. Mais c'est ça, c'est peut-être pas un sujet pour eux. C'est peut-être un peu compliqué, mais en même temps, je vois pas pourquoi. Ça, c'est plus, évidemment, adulte. Je pense que le... vieil ado, peut-être, adulte. Mais c'est pas... Je vois pas de problème.
Il n'y a pas d'âge.
S'il y a des gens... En plus, il y a des clins d'œil au manga un peu là-dedans. Parce qu'il y a un des personnages qui aime beaucoup le manga puis qui en lit, puis elle en parle. Mais en même temps, je parle de manga, je trahis mon âge parce que je parle de manga qui existait quand moi, j'étais ado.
Et quand pas vous parlez de manga, vous parlez de quoi exactement pour ceux qui n'ont jamais entendu ça?
Vous voulez dire dans mon livre...
Le style manga.
Ah, le style manga, ben c'est la BD. Manga veut dire bande dessinée en japonais. Donc, c'est les mangas, techniquement, c'est supposé être de la BD japonaise. Je fais référence à deux ouvrages de manga dans mon livre. Donc, c'est Gunm ou Battle Angel Alita. Il y a eu un film qui a été fait basé sur cette série-là qui s'appelle Alita. Mais le nom original et le nom français de la série, c'est Gunm. Qui est un manga de 80-90, puis Ranma et demi, qui est un manga fait par une mangaka femme, qui est une série très bonne, très drôle, qui se prend vraiment pas au sérieux. Ça, il y a un T-shirt, il y a un personnage qui a un T-shirt de ça dans ma série, puis il en parle, parce que c'est une série où il y a beaucoup, beaucoup de nudité, parce que c'est l'histoire d'un homme que quand il est aspergé d'eau froide, il se transforme en femme, puis quand il est aspergé d'eau chaude, il redevient un homme. Fait qu'il est tout nu, évidemment, à un paquet d'endroits... inapproprié, inusité. c'est pas du tout sexuel, mais c'est évidemment qu'il passe beaucoup de temps à toucher ses propres seins, comme voyons qu'est-ce qui m'arrive, puis c'est assez rigolo.
Bon, alors, on rigole un peu quand même, il y a de l'humour dans votre BD à vous.
Ben, ça commence plus léger. Je pense que la BD s'en va quelque part au début où les gens se soupçonnent pas qu'après, il y a comme une coupure où là, ça se met à mal aller. Je pense que c'est important pour moi qu'on comprenne le quotidien et la vie d'Odette avant de lui dérober ce quotidien-là un peu.
Lui apprendre, qu'elle apprenne à le vivre autrement, l'appréhender autrement.
Ben c'est ça. Il y a aussi il fallait qu'elle s'habitue, dans le fond. On a un diagnostic, on a une maladie, puis on se fait dire « bof, tu vas apprendre à vivre avec parce qu'il n'y a rien à faire ». Puis c'est un peu ça que moi j'ai vécu. J'avais pas de réponse à mes questions, comme j'ai dit tantôt. Fait que je devais m'habituer. Donc, j'avais ça dans l'œil maintenant. Puis c'était ça ma vie. Ça fait que c'était ça que je voulais faire dans mon livre au départ. Puis bon, évidemment, à me donner, ça dégénère. Donc, c'est pas aussi joyeux qu'au départ.
Non, on passe par toutes sortes d'émotions.
Oui.
Alors, La Méduse, brillante et touchante BD, signée Boom. Ça a été un plaisir de converser avec vous. Je vous souhaite un joyeux Noël.
Merci, vous
aussi. Et puis, au plaisir de vous retrouver. On va suivre votre carrière, Boom. Merci beaucoup.
Merci à vous.